Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL.
Venez témoigner selon l'actualité du jour, celle qui évidemment vous fera réagir. On parlera du Mali dans quelques instants, on parlera de la Covid, de ce confinement qui pourra arriver région par région après le Conseil de défense qui a lieu en ce moment même en visioconférence avec le chef de l'État, avec Emmanuel Macron, pour définir d'abord ce qui va se passer par exemple dans la nuit du 31 décembre et ensuite parler de l'avenir dès le 4 janvier et la réouverture peut-être, pourquoi pas des remontées mécaniques le 7 janvier pour les amis skieurs. Si vous parlez de ski, c'est que la neige est tombée en abondance sur le Cantal, pas moins de 80 cm. On va en reparler avec Muriel qui est avec nous dans quelques instants. Mais auparavant, on l'a appris il y a à peine 8 minutes maintenant. On a appris la mort du couturier français Pierre Cardin, 98 ans, dans la matinée. Il est décédé à l'hôpital américain de Neuilly. On va revenir avec vous, Monique Younès, sur la vie et l'œuvre de Pierre Cardin.
Il se vantait de dormir dans le lit du marquis de Sade, aimait rappeler qu'il a connu les puissants du monde entier et se plaisait à fredonner des chansons de Charles Trenet. Pierre Cardin, un des 5 noms français les plus connu au monde, était surtout un précurseur. Le premier couturier à lancer une ligne de prêt-à-porter féminin et une ligne unisexe, le premier modéliste à sigler ses collections, le premier capitaliste à s'implanter en Chine communiste, le premier tailleur à siéger à l'Académie française et le premier entrepreneur à se diversifier. Du restaurant Maxim's à l'espace Pierre Cardin, qui a vu triompher sur ses planches toutes les stars des années 70 et 80, Pierre Cardin comptait dans le monde quelques 200 000 personnes qui travaillaient autour de ses marques. Et à force d'inscrire son nom sur près de 800 produits, allant des carrelages aux confitures, des casseroles aux cravates, et qui lui rapportaient 35 millions d'euros par an, Pierre Cardin nous a fait oublier à nous les femmes qu'on lui devait les robes asymétriques, les robes cerceau et les robes bulles, et à vous messieurs, les vestes sans col. Rares sont ceux qui se souviennent aujourd'hui que c'est Pierre Cardin qui a réalisé les tenues de scène des Beatles à leur début, ou les habits des héros de la série Chapeau melon et bottes de cuir. Pour cet homme d'affaires et mécène infatigable, le talent et le goût ne suffisaient pas, seul le style comptait.
Et merci à vous, Monique Younès, service culture d'RTL. Oui, chapeau melon et bottes de cuir. Oui, ses robes, cerceaux. Vous, l'image de Pierre Cardin, un formidable portrait en tout cas et aventure de la France avec ce restaurant Maxim, ces espaces pour le spectacle, l'espace Pierre Cardin. Premier grand modéliste, qu'en pensez-vous? Qu'allez-vous retenir de Pierre Cardin, décédé aujourd'hui à l'âge de 98 ans? On attend vos appels 32 10 3 2 1 0. Événement du jour, c'est le grand froid bien sûr dans cette fin d'année. Alors oui, c'est l'hiver, certes, mais il est quand même tombé pas moins de 80 cm de neige, par exemple, sur le Cantal. Muriel est avec nous. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Après Bella, on a bien senti la tempête que ça allait se concentrer un peu en France, et là c'est tombé de rue. Hein.
Ah, c'est tombé de rue, oui. On en a 70 cm à Pierrefort.
D'accord, donc c'est le bazar, quoi.
Ah, pas du tout. Enfin, pour ceux qui conduisent et qui doivent aller au boulot.
Mais bah oui, bon. Quand même, comment ça se passe sur les routes? C'est compliqué, c'est bloqué.
Ah, c'est bloqué, oui. Mais c'est bloqué pas par la neige, c'est bloqué beaucoup par des arbres qui sont tombés suite au poids de la neige.
C'est ça. Et les lignes électriques, en plus, qu'il faut surveiller parce qu'il y a encore des foyers qui sont coupés d'électricité. Vous le vivez comment, ce moment de l'année? Parce que c'est un moment, c'est toujours un peu festif entre Noël et Nouvel An. La neige qui est au rendez-vous, c'est pas une surprise non plus.
Non plus, il l'avait bien annoncé. Et puis, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de neige à Noël. C'est génial pour les enfants. C'est vraiment génial.
D'accord. Vous êtes où exactement?
À Pierrefort.
À Pierrefort? D'accord.
Oui.
C'est plutôt un petit village, Pierrefort? J'ai cherché de chercher si je suis passé par le Tour de France.
Oui, on est à peine 1000 habitants.
À peine 1000 habitants. Donc aujourd'hui, on s'organise, mais il n'y a pas de panique, il n'y a rien du tout. On va pouvoir célébrer la fin de l'année tranquillement chez vous.
Ah, tout à fait. Hein. Ils l'ont poussé, ils savent plus où la mettre, mais ils la poussent comme ils peuvent.
Ils la poussent comme ils peuvent. Ouais. Faut en garder pour les stations de ski si jamais ça ouvre, hein. Bien sûr. Vous êtes pas.
Ah, ouais. C'est quand même malheureux pour eux, pour une fois qu'il y avait de la neige à Noël.
Oui, ouais, c'est vrai que pour une fois qu'il y a une très très belle neige à Noël. Mais bon, tout le monde fait des efforts. Vous êtes d'accord avec moi, Muriel?
Tout le monde. Hein. Et puis, je vous dis, on est en confinement. Nous, on est fermés, on n'est pas essentiels. Donc ça nous occupe de faire des pelletée de neige.
Bah oui, parce que vous êtes dans quoi? Dans quel secteur, Muriel?
Moi, j'ai le bureau de tabac à Pierrefort.
D'accord, donc c'est ouvert chez vous?
Ah ben, que le tabac.
Tabac, c'est ouvert.
Et
hein.
On fait quelques cafés emportés pour ceux qui en veulent, mais voilà. Donc,
faut des petits plats aussi à emporter?
Ah non, pas du tout, non. J'ai arrêté la brasserie, il n'y avait pas assez de monde, et non, que le tabac pour les fumeurs, hein. Mm-hmm. Et puis voilà. Et puis, on ne travaille que le matin. On a aménagé les horaires et puis les après-midi, ça nous laisse le temps de bouger la neige.
Bah, ça te fait toujours du bien, on reste en forme. Alors après, il ne faut pas que ce soit compliqué non plus pour accéder, on disait. Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce qu'a dit Louis tout à l'heure? Il a dit que ça allait durer quand même un tout petit peu, hein, de mémoire, hein, Louis Baudin.
Jusqu'à jeudi, on aura un peu de neige, un peu moins quand même. Mais bon, bah, là, c'est dégagé quand même pas mal. Bon, c'est sûr que pour ceux qui travaillent de bonne heure, les
c'est
gens
compliqué.
Les infirmières, ça reste compliqué hein, pour les gens qui doivent prendre leur véhicule. Bon, enfin, chez nous, ceux-là, ils sont chaussés. Ceux qui sont pas chaussés, c'est les vacanciers qui mettent le bazar parce qu'ils restent bloqués.
Oui, on l'a vu sur la 75, évidemment, vers Clermont, tout ça, hier
voilà,
encore, hein, c'était bloqué.
Les autres dépassés qui sont chaussés et qui savent conduire sous la neige, c'est surtout ça.
Bien sûr, bien sûr.
Les gens paniquent, ont peur, sont pas habitués, ça se comprend. Mais voilà quoi.
Oui, et puis quand on prend un mètre de neige, hein, c'est voilà, près d'un mètre de neige dans certaines régions, c'est compliqué à gérer, même si c'est, ouais, ça fait le bonheur des enfants, vous avez raison.
Les routes sont dégagées, quand les chasse-neige peuvent passer, il n'y a pas d'arbres qui les empêchent, je veux dire, les voitures circulent.
Très bien.
Il faut aller au pas, il faut faire attention, il faut être prudent, hein, ça reste. Mais après, ça circule. Hein. Il faut quand même laisser le temps à l'équipement que la neige soit tombée pour pouvoir l'enlever. Hein.
D'accord.
Ils peuvent pas être partout en même temps.
Muriel, faites-nous, rien que pour RTL, un joli bonhomme de neige. Vous le faites rouge et blanc.
Il y en a déjà un sur mon balcon, cher monsieur.
Ah, très bien. Est-ce que vous êtes buraliste, vous m'avez dit hein?
Oui.
Donc vous avez mis une carotte à votre petit bonhomme de neige, que c'est la carotte, c'est quand même ce qui c'est bien comme ça qu'on appelle votre logo, votre emblème. C'est la carotte dans les bars tabac pour savoir qu'on peut acheter du tabac.
Oui.
Eh oui,
voilà.
Quand même. Voilà, je me disais bien que c'est la petite carotte. Voilà, pour le petit bonhomme de neige RTL qui sera chez vous, évidemment. Profitez bien de ce moment puisque vous en profitez. Vous n'êtes pas pour l'instant bloqué. Et heureusement, et on a vu que certains. Oh ben, on avait des familles. Tout à l'heure, on était avec Sophie, par exemple, qui est en famille hein, dans le Cantal et qui était un petit peu bloquée, mais que ça va s'arranger puisque les chasse-neige vont pouvoir passer dans sa région du Cantal. Merci à vous d'avoir témoigné, en tout cas. Dans les auditeurs ont la parole, Muriel. Claire nous rejoint sur le standard, sur le 3210. Bonjour à vous, Claire.
Bonjour, Christophe.
Vous appelez de quel endroit de France, Claire?
J'habite à Reims.
À Reims. Vous n'êtes pas bloqué par la neige, il n'y a pas de soucis?
Non, on n'a que des soucis avec le coronavirus.
Oui, ce qui est déjà beaucoup depuis 2020, hein, depuis le mois de mars. Hein.
Dans le Grand Est et puis même sur toute la France, ça fait beaucoup, oui.
D'accord. Qu'est-ce que faites-vous de beau dans la vie?
Alors, je dirige un hôpital privé. J'ai sous ma responsabilité deux établissements différents à Reims.
D'accord, vous avez entendu peut-être cette information. C'est un record, je ne sais pas si c'est un triste record pour l'instant, parce que ce sont que des gens qui sont contaminés. On va voir s'il y a des cas graves au fil de la journée, mais sur un établissement quand même de 70 personnes dans les Ardennes, 60 personnes touchées à Mouzon, c'est énorme, avec du personnel en plus, des soignants, une dizaine qui ont été touchés également. C'est ce qu'on craint le plus dans les EHPAD encore aujourd'hui?
Ah oui, c'est ce qu'on craint dans les EHPAD et puis aussi dans les courts séjours, comme les établissements que je dirige. Parce que même toutes les précautions qu'on peut prendre, il reste des portes d'entrée. Soit avec les visites, et c'est difficile, surtout en période de fête, d'interdire complètement les visites. Soit, hélas, par quand même les soignants. C'est compliqué et je dois dire qu'en EHPAD, ça ne doit pas être facile, surtout si on a des pensionnaires un petit peu perdus qui rentrent dans la chambre des uns des autres.
Oui.
Et on peut pas enfermer un pensionnaire un résident dans sa chambre. C'est pas possible. C'est horrible. Ils ont déjà pas de visite. Oui. Et en plus, on les enferme. Enfin, moi, je vois que ma mère est dans une EHPAD à Dijon. Mm-hmm. Heureusement, elle est dans un secteur fermé. Mais dans son secteur, elle circule.
Oui. Et pour vous, Claire, il faudrait qu'on revienne peut-être au premier confinement, celui du 16-17 mars, où on n'avait plus le droit de visiter dans les EHPAD. C'est le moment ou jamais. C'est un confinement peut-être plus court, sur une quinzaine de jours. Je sais que votre maire à Reims, hein, Monsieur Robinet, voulait lui aussi, comme le président de la région Grand Est, peut-être revenir vers un confinement plus local, quelque part.
Confinement local, je ne sais pas. Confinement plus strict, oui.
Oui.
Plus strict que celui de novembre. Mais court, parce qu'on ne va pas faire tenir les jeunes parents avec les enfants en télétravail, ça ne va pas être possible. Il faut, je veux dire, je pense que nerveusement, on a laissé des gens sur la route. Donc il faut qu'on fasse court, mais qu'il faut mieux qu'on fasse court, mais très sévère. Et puis je redis qu'il faut être très sévère sur le port du masque. Ce n'est pas 135 euros, c'est 500 euros. On n'a pas son masque, on ne le porte pas correctement.
500 euros directement.
500 euros. Est-ce que c'est que comme ça? Et puis, encourager la vaccination. Et au départ, j'ai appelé pour dire que je voulais vraiment que le gouvernement accélère l'organisation de la vaccination. Je suis très surprise de la petite vitesse avec laquelle ça se met en place.
Oui, le premier jour, 13 vaccinations la première journée. Mais c'était pour montrer l'exemple. Hein.
Mais c'est nul, mais c'est nul d'avoir mis tous ces moyens pour cela. C'est nul. Moi, je vois dans l'EHPAD de ma maman à Dijon, on nous a toujours pas interrogés. Que c'est nous qui allons être interrogés comme elle est sous tutelle. On ne nous a toujours pas interrogés pour savoir si on était d'accord ou pas. Ouais. Donc, le temps que ça se mette en place, après, il y a 2 injections à 3 semaines d'écart.
C'est ça.
Et ça y est, on a enfin, parce que pareil, jusqu'à hier, on ne savait pas qui avait le droit de vacciner. Est-ce que ça ne pouvait être que les médecins ou est-ce que les infirmiers avaient le droit de vacciner?
Et donc
hier, il y a un décret, les infirmiers peuvent vacciner. Moi, si on me donne, je demande même pas à être payée, si on me donne, si on me m'autorise, moi j'ouvre un centre de vaccination tout de suite dans une de mes cliniques. Il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on puisse vacciner le plus vite possible un maximum de personnes.
Il faudra aller plus vite, oui. Comme le disait d'ailleurs le maire de Nice, hein, Christian Estrosi, dès hier, hein, aller plus vite. D'ailleurs, on en reparlera ce soir. Restez bien à l'écoute d'RTL, Claire, parce que, j'étais avec Muriel tout à l'heure, Claire, parce que ce soir, Isabelle Choquet va recevoir le monsieur vaccin en France. Donc, ça sera intéressant d'avoir son avis aujourd'hui sur le côté un peu lent. Et je comprends, comme vous, on est assez surpris. Premier jour, 13 vaccinations. Mais on sait que ça doit se mettre en place. Mais que vous ne soyez pas sondé en tant que responsable d'établissement, ça me semble un peu incroyable. Responsable de deux hôpitaux, en tout cas, directrice. Merci Claire d'avoir pris le temps de nous appeler, même si vous êtes en route. Soyez vigilante avec le téléphone, bien sûr. 13h19, vous êtes bien sur RTL.
Christophe Paco, les auditeurs ont la parole sur RTL.
On reste encore sur le thème du confinement, puisque Martine nous rejoint à l'instant. 3210, 3210, bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Alors vous, le confinement, comment vous le sentez? Vous êtes d'abord de quelle région de France?
Alors moi, je suis à Besançon. Nous n'avons pas encore de neige, mais nous l'attendons. Parce que c'est vrai que ça ne nous fait pas plus peur que ça.
Ah, ma bonne ville de Besançon.
On est à Noël.
À Noël, ma Franche-Comté préférée. Ah, Besançon, le comté. Justement, vous allez fêter, vous, le 31 ? Un petit peu, à la maison, tiens ?
De toute façon, oui, et c'est pour ça que j'ai appelé, parce que votre discussion sur le troisième confinement, c'est sûr qu'on y va. Tout droit, alors les modalités, on verra. Mais ce qui m'a fait réagir, c'est que ce matin, j'ai regardé sur BFM des jeunes qui s'exprimaient et qui disaient, nous, le confinement, bof, le 31 décembre, le couvre-feu, on ne le respectera pas.
C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller dans la rue non plus, ils vont rester chez eux, vous voulez dire. Oui.
Non, mais je veux dire qu'ils s'en moquent. Donc la question que je me pose, est-ce que tous ces jeunes-là sont orphelins? C'est-à-dire, est-ce qu'ils n'ont ni parents, ni voisins âgés, ni grands-parents, à qui, après avoir fait une soirée souvent bien arrosée, bon, quand vous avez une crise de foie, c'est pas grave, vous êtes malade, vous restez couché, mais le Covid, une fois que vous l'aurez, vous pourrez le transmettre.
Prenez soin de vous, mais prenez soin des autres, je comprends votre message.
Mais surtout, prenez soin des autres. Et on demande aux gens de faire attention pour un réveillon. Mais ce n'est pas la fin du monde.
Mais on a déjà fait attention pour Noël. Bon, peut-être, je ne veux pas dire qu'on peut comprendre les jeunes, ce serait déplacé de ma part. Mais déjà, on a respecté à 6, évidemment, les mesures pour Noël, pour aller voir notre famille. On a fait très attention. On a utilisé les WhatsApp, les réseaux sociaux des jeunes, comme vous dites aujourd'hui.
Voilà.
Martine, mais c'est sûr que certains vont vouloir quand même faire la fête et déboucher une bouteille de champagne à minuit, tout près des Champs-Élysées à Paris pour les Parisiens.
Oui, tout à fait.
Ou pour vous à Besançon, près de la Citadelle, d'aller se balader un peu. Oui.
Je suis désolée. On nous a instauré un couvre-feu. Et pourtant, je ne suis pas du tout du genre la main sur la couture du pantalon. Pas du tout.
Oui. Après, on nous demande beaucoup. On nous demande beaucoup. C'est pour ça que le troisième confinement est à l'ordre du jour. Certainement à l'étude au moins. Mais c'est compliqué parce qu'on nous a demandé tellement d'efforts. Vous voyez, Martine ?
On nous a demandé des efforts. Mais est-ce qu'on peut considérer que par ça, on sauve des vies ?
Il faut le répéter tous les jours d'ici le 31, effectivement. On va voir les mesures. Il y aura beaucoup de services de police, en tout cas.
Et j'ai quand même l'impression que du côté de les instances de l'administration et du gouvernement, on est un peu mou du genou.
On va attendre les mesures du ministère de l'Intérieur, notamment de Gérald Darmanin, qui devrait s'exprimer aujourd'hui ou demain. En tout cas, il y aura de nouvelles mesures, il y aura de plus en plus de policiers, Martine. Et vous avez bien fait de rappeler encore une fois, protégez-vous, portez le masque, mais protégez ceux que vous aimez, protégez les autres. Et Claire l'a rappelé en tant qu'infirmière, en tant que directrice d'hôpital, porter le masque. C'est la base, et éviter de sortir et de trop faire la fête ce 31. Pour une fois, faites une fête tranquille chez vous, avec vos meilleurs amis, en vous protégeant un maximum. Mais n'allez pas dans le délire absolu, si je peux me permettre, vous les jeunes et les autres. 13h22, vous vouliez parler du Mali, évidemment, de ces trois soldats qui ont été tués hier en mission. On va en parler avec vous dans une minute.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL.
Vos thèmes aujourd'hui, évidemment, retenus dans l'actualité, la neige, les intempéries après la tempête Bella. On vient de parler encore une fois du coronavirus, des conséquences. Y aura-t-il un nouveau confinement? En ce moment, il y a un conseil national sanitaire qui se déroule autour du président Macron en visioconférence. Pierre Cardin également, on vient de l'apprendre il y a une petite demi-heure maintenant, qui nous a quitté, le grand couturier français à l'âge de 98 ans. Et vous vouliez parler évidemment de ces trois soldats français tués hier matin par une bombe artisanale dans une zone des trois frontières. Dans le centre du Mali, des soldats qui faisaient partie de l'opération Barkhane. Faut-il continuer à être présent au cœur du Sahel? Pour en parler, Marie et Frédéric. Je salue d'abord Marie. Bonjour Marie.
Oui, bonjour RTL. Bonjour Christophe. Alors écoutez, cette situation est difficile pour la France et pour les soldats français parce qu'elle est incontrôlable en fait. Si on ne regarde pas ce qu'est le Mali c'est un immense état.
C'est 5 fois la France quoi.
Non, c'est l'Europe orientale, la surface du Mali, monsieur.
Oui.
C'est bien plus que ça. Donc, et en plus, cette surface est contrôlée aux 2/3 déjà par les islamistes.
Bien sûr.
Donc, pour les Français, avec 5 000 et quelques soldats, c'est très peu, c'est très très peu.
Il y a les forces de l'ONU également, hein, mais c'est vrai que nous sommes très présents, nous, engagés dans ce combat.
Ils ne sont pas très nombreux, et quant à l'aide européenne, elle n'est pas très importante.
Oui.
Donc, pour la France, contrôler ce territoire, c'est un peu comme le tonneau des Danaïdes. On va quelque part, on prend position, et après on est obligé de partir. Pourquoi? Parce que la population locale est quand même à très très peur là-bas, dans le nord du Mali, dans le nord-est, etc. Ils sont sous contrôle, et puis ils ont des exactions. Et puis parce que ce gouvernement malien n'est pas très net, en fait, quand il y a des prisonniers, ben ils les relâchent. Et puis, il y a derrière tous les territoires autour, comme le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad.
Et pour être très clair, pour lire entre les lignes de ce que vous êtes en train de nous raconter, Marie, il faudrait peut-être plus des commandos qu'une force armée de 5000 personnes, c'est ça, pour vous?
En fait, je pense que même avec des commandos, c'est très difficile, parce qu'ils sont sur leur terrain, ils sont invisibles. Vous voyez, ça me fait passer à l'Afghanistan.
Oui.
On est resté pendant des années,
c'est
les
ça.
Russes, et finalement, ils sont partis, parce que ce sont des... Ils sont chez eux.
C'est un grand territoire, c'est chez eux, c'est compliqué. Marie, vous êtes avec Frédéric, j'aimerais avoir son avis, parce qu'il nous reste 1 minute 30 pour discuter ensemble. Frédéric, vous aussi, vous êtes pour ou contre le fait de rester au Mali? Bonjour à vous.
Bonjour Monsieur Paco. Moi je suis totalement pour. Écoutez, le sondage qui a été fait là sur vos antennes m'a absolument effaré. Les gens ne comprennent pas ce qu'est le devoir d'un militaire. Un militaire, il se doit de défendre son pays. Ils sont en première ligne contre l'État islamique au Mali.
Bien sûr.
Pour Hakmi. Et ils font juste leur devoir. Et alors, bien sûr.
Ce que disait le lieutenant-colonel, qui est notre invité, hein, qui est le deuxième de la base.
J'ai bu ses paroles. On est tous attristés en tant que Français d'avoir trois militaires qui se sont fait tuer lâchement par une bombe artisanale.
Oui.
Mais ils ont voulu. Ils ont signé, ils ont voulu, ils sont militaires.
Ils sont morts pour la France, oui.
Et ils sont morts pour la France. Et au lieu de dénigrer le fait d'envoyer nos jeunes dans d'autres pays, il faudrait les honorer.
Mais c'est ce qui sera fait très certainement, on l'espère, avec un hommage national.
C'est les 68%, excusez-moi, les 68% des Français là qui ont voté sur RTL là, hein, qui disent qu'il faut plus, ils n'honorent pas. nos militaires.
C'est leur mission du moment, qui est confiée par le chef des armées, qui est le chef de l'État. J'ai bien compris.
Ils veulent pas de d'islamisme et de enfin de comment dire de d'attentats pardon en France, mais par contre ils se cachent les yeux et les oreilles. Et
il faut pour vous il faut aller là-bas sur place pour voilà pour aller directement évidemment à la source. Frédéric, on va être obligé de se quitter. On aura l'occasion de certainement de rediscuter ensemble hein, sur RTL dans les auditeurs à la parole avec Pascal Praud la semaine prochaine et dès demain puisqu'on se retrouve demain avec grand plaisir. RTL midi, une demi-heure d'information, une demi-heure de discussion ensuite avec vous les auditeurs en la parole. C'est juste avant de retrouver Jean-Alphonse Richard. Bonne journée sur RTL.